VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. 11h en temps universel, plus de 9 millions d'Angolais vont se rendre aux urnes demain mercredi pour élire leur nouveau président dans un pays en pleine crise économique à cause de la chute du pétrole. Le président sortant, José Eduardo Santos, âgé de 74 ans et au pouvoir depuis 38 ans, n'est pas candidat à sa propre succession. João Lourenço, un ancien général de 63 ans, défendra les couleurs du mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, parti au pouvoir dont Dos Santos conserve la présidence. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, ancien mouvement rebelle, a annoncé une semaine avant le scrutin qu'elle formerait une coalition avec les partis de l'opposition. République démocratique du Congo, la diaspora congolaise se mobilise pour sortir de l'impasse politique. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré et il n'y a pas d'élection en vue. Un directoire de transition sans Kabila a été mis en place. Il a tenu une conférence à Lille, dans le nord de la France, pour discuter des mesures d'urgence pendant cette transition. Mike Justin Kabondi, membre de ce directoire.
Le message, il est très clair. La population est décidée, déterminée, parce qu'il y a l'inconstitutionnalité. Les institutions sont caduques. La présidence, le mandat a été déchu. Le Parlement a été expiré depuis 10 ans. Les gouverneurs sont expirés. Mais dans quel pays on peut vraiment soutenir une population avec des institutions caduques? Donc le pouvoir, il est dans la rue. Donc le DNT, nous sommes décidés de venir au pouvoir par tous les moyens. Mais nous sommes un pouvoir déjà pacifique, ouvert à toute discussion avec tous nos compatriotes, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre. Nous allons collaborer avec tous les pays que moi j'appelle les amis du Congo pour que ce pays redémarre au niveau économique et que son peuple soit honoré au niveau social. Degré ou de force, il faudra que Kabila parte et toute la communauté internationale nous soutiennent dans cette démarche. Et maintenant, il est grand temps pour lui de dire « Oui, il faut que je pars paisiblement ou alors ça sera la force. »
Mike Justin Kabondi, membre du directoire de transition sans Kabila. Au Gabon, des membres de l'opposition proche de Jinping ont failli à leur entrée au gouvernement à la suite d'un léger remaniement. Le président Bongo a aussi restauré le poste de vice-président. Éric Manirakiza.
La vice-présidence de la République revient à l'ancien candidat à la dernière présidentielle, Pierre Claver Maganga Moussavou. Mbemezu Obiang, l'ex-directeur de campagne de Jinping, a hérité du Conseil économique et social. Estelle Ondo, déjà exclue de l'Union nationale, a été nommée au transport. Patrick Eyogo Ezang, à l'eau et énergie, et doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Le Premier ministre n'a pas changé, de même que les ministres de la Communication et porte-parole, des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, ainsi que l'économie, considérés comme les poids lourds de l'équipe Bongo. Le gouvernement compte 38 membres contre 40 dans le précédent. Il traduit les conclusions du dialogue politique rejeté par Jinping, qui se proclame toujours le président élu. Vendredi, son appel à la désobéissance civile n'a pas été suivi. Des élections législatives doivent avoir lieu en 2018.
Au Congo-Brazzaville, des milliers de Congolais originaires de Poule fuient les violences qui sévissent dans cette région pour trouver refuge dans la capitale. Ils vivent dans des conditions très difficiles, nous dit notre correspondant sur place, Ngoula Ngoussou.
Cela fait déjà beaucoup de mois que les personnes fuyant la guerre dans le Poule arrivent à Brazzaville. Elles laissent derrière elles des villages en ruine. Elisabeth Loukou vient de Mbanzandunga district.
Je suis paralytique. En fuyant le village, j'ai abandonné mon tricycle en chemin. Là, je ne peux pas me promener pour chercher de quoi manger. Je suis quand même une personne. On souffre et on est sans assistance.
André Mayela, du village Kimpanzu 1, se retrouve à Brazzaville avec toute sa famille après avoir tout perdu.
C'est en pleine nuit que les ninjas sont venus nous faire sortir de nos maisons. Quelques temps après, le village a été brûlé. Nous avons fui dans les forêts avant de regagner Brazzaville, où un parent nous héberge.
À Brazzaville, où ils sont arrivés, ils doivent se débrouiller pour survivre. L'assistance humanitaire des pouvoirs publics s'est fait attendre. Les agences des Nations Unies peinent à collecter les fonds. Antoinette Bavuzibio de Kimpanzu 1 raconte sa misère à Brazzaville.
Depuis notre arrivée ici à Brazzaville, nous vivons difficilement. Il faut vendre du bois de chauffe. Nous ne gagnons malheureusement pas grand-chose pour nourrir la famille. Nous souffrons.
Les familles d'accueil n'en peuvent plus et appellent à l'aide.
Surtout le problème de tous les jours, il faut qu'il y ait à manger. Là, c'est les autres dorment sur terre. Hein? Regardez ma maison n'est pas encore finie. Bon. Hein? Vraiment, on demande une aide, surtout dans Brazzaville et surtout le poule.
Selon la société civile, les sinistrés du poule arrivent toujours. Gaspard Mienantima organise leur enregistrement dans les quartiers sud de Brazzaville.
Nous sommes arrivés aux environs de 2500 que nous avons pu recenser. Et là, on ne recensait que des grandes personnes. La majorité vit dans le 8e arrondissement Madibou. Et ils continuent à venir. Tout ça, c'est pénible, c'est infernal.
Un comité d'ONG a lancé un SOS à la communauté nationale afin de venir en aide à ces personnes. Docteur Alex Nzaba.
Nous avons pris contact avec les communautés catholiques, protestantes, musulmanes, les églises de réveil, la communauté kimbanguiste, la communauté salutiste, la communauté ngundiste, les comités de marché de Brazzaville, les entreprises privées, de telle sorte qu'ils puissent nous accompagner dans la recherche de solutions envers ces sinistrés, puisque le gouvernement a déclaré faillite.
Le président Denis Sassou Nguesso a récemment appelé le pasteur Ntoumi et ses miliciens ninja à se rendre à la justice congolaise afin d'abréger les souffrances des populations du poule. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Maroc dans l'indignation. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes qui agresse sexuellement une jeune fille dans un bus. Mohamed Ziane, avocat et ministre délégué auprès du premier ministère chargé des droits de l'homme, crie son indignation et annonce des mesures.
Le Maroc va réviser sa politique en ce qui concerne la peine de mort et qu'on va commencer à prononcer des peines de mort. Parce qu'en matière de crimes de cette nature, l'amitié internationale et son abolition de la peine capitale, il serait mieux de nous foutre la paix avec. Hein. Un violeur dans un lieu public et collectivement, c'est quelqu'un qui n'a respect ni de sa société, ni de la femme, ni du sexe, ni des citoyens. La vie est un droit, le respect de la personne humaine est un droit, le respect de la femme est un droit. Le respect de la vie sexuelle d'une femme est un droit. Le viol est un crime. Le viol collectif, c'est un crime avec circonstances aggravantes. Le viol collectif dans un lieu public, c'est un crime avec deux circonstances aggravantes. Et à un moment donné, il faut dire arrêt.
Mohamed Ziane, avocat et ministre délégué auprès du premier ministère chargé des droits de l'homme au Maroc. À Washington, il est 7h08.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a exclu hier tout retrait des États-Unis d'Afghanistan, ouvrant la porte à l'envoi de soldats supplémentaires et accentuant la pression sur le Pakistan accusé d'être un repère pour des agents du chaos. Le chef de l'exécutif américain n'a donné aucun chiffre sur le niveau des troupes ou aucune échéance dans le temps, jugeant que c'était contre-productif. Il a plutôt fait savoir qu'un retrait précipité d'Afghanistan créerait un vide qui profiterait aux terroristes. Le secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, est arrivé aujourd'hui à Bagdad pour une visite surprise au troisième jour d'une offensive des forces irakiennes soutenues par la coalition anti-djihadiste dirigée par Washington sur un bastion du groupe État islamique dans le pays. M. Mattis va rencontrer donc le premier ministre Haider al-Abadi et d'autres responsables irakiens à Bagdad, ainsi que Massoud Barzani, président de la région autonome du Kurdistan irakien à Erbil. Sa visite intervient un mois et demi après la reprise à l'État islamique de Mossoul, deuxième ville d'Irak, et alors que l'étau se resserre autour de Tal Afar, l'un des derniers fiefs djihadistes en Irak. Et pour terminer, l'Iran pourrait reprendre rapidement sa production d'uranium hautement enrichi si les États-Unis quittaient l'accord nucléaire, a averti aujourd'hui le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Le président américain Donald Trump, hostile à cet accord, négocié sous la houlette de son prédécesseur démocrate Barack Obama, a menacé à plusieurs reprises de déchirer le test. Il a également imposé récemment une série de sanctions juridiques et financières à l'Iran non liées aux activités nucléaires. Téhéran avait déjà menacé la semaine dernière de quitter très rapidement l'accord nucléaire si les États-Unis continuaient leur politique de sanctions. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.